c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Attitude, votre radio en Charente avec Alain Jeanne.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chute, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente en Charente sur mariemorin.fr.
Chute, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc à Ruffec, votre référence culturelle en Nord-Charentin.
Chute, on écoute la télé avec L'Angélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Et L'Angélis, c'est maintenant 3 boutiques à Royan, Paris et Bordeaux.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Comme chaque lundi à 13h et mardi à 19h, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Chute, on écoute la télé, l'hebdo sur Attitude, votre radio en Charente. Pendant une heure, on va passer en revue toute l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors détendez-vous, on s'occupe du reste. Voici tout de suite le sommaire de cette semaine.
Chute, on écoute la télé,
le talk show radio.
Et au sommaire donc de cette nouvelle hebdo de Chute en écoute la télé, deux coups de cœur cinéma aujourd'hui, le premier consacré au film Délicieux. Éric Bénard et Grégory Gadebois vont nous rejoindre dans deux petites minutes pour nous parler de ce très joli film qui va vous donner, j'espère, l'eau à la bouche. Et Nicoletta, qui fête son anniversaire de carrière sur scène, sera avec nous, invité exceptionnel de Chute en écoute la télé. Julie Gayet, également à l'affiche de la série Une mère parfaite ce soir sur TF1, viendra nous parler de cette mini-série événement. Charlotte Gassiot également, qui vient de faire son arrivée dans Demain nous appartient, viendra nous parler de son nouveau rôle. Et puis également, deuxième coup de cœur ciné en fin d'émission, Boîte Noire, le film à ne pas rater cette semaine dans les salles. Yann Gauzlan, le réalisateur, et Pierre Ninet seront nos invités exceptionnels pour en parler. Vous l'avez compris, ça s'annonce chargé. On va tout de suite démarrer avec les audiences de la semaine dernière. C'est parti.
Les top et flops d'audience.
Et on démarre comme chaque semaine avec les audiences de la semaine dernière. Lundi, il y avait L'amour est dans le pré sur M6. Eh bien, c'est un joli score. 3 846 000 téléspectateurs. 18,6% de part de marché. Mais Camping Paradis sur TF1 avec l'épisode inédit avec La Gaffe est devant avec 4 299 000 et 19,9% de part de marché. Mardi, Koh-Lanta, la légende toujours devant avec 5 286 000 téléspectateurs et 26,4% de part de marché. Jugé coupable, la nouvelle série France 3 est à 3 488 000 et ils étaient 10 sur M6 et sur la troisième marche du podium avec quasiment 2 millions de téléspectateurs. Beau score également pour Les débuts d'une famille en or, plutôt encourageant avec plus d'un million de téléspectateurs à 23h30. Et puis mercredi, il y avait du foot avec France-Bosnie et c'est un très beau score pour M6, 5 627 000 téléspectateurs et 24,2% du public. Good Doctor s'en sort plutôt pas mal avec 3 247 000 et Astrid et Raphaël sur France 2 avec des rodifs frise les 3 millions de téléspectateurs.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné cette semaine est consacré au film Délicieux qui sort mercredi dans les salles. On a une partie de l'équipe aujourd'hui avec nous, le réalisateur Éric Bénard. Bonjour Éric.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Le producteur également, un des coproducteurs, Christophe Rossignon. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Et puis on a également Grégory Gadebois également qui est le héros, j'oserais dire, du film. Bonjour Grégory, merci d'être avec nous.
Moi par contre c'est un des héros.
Bonjour. Un des héros avec Benjamin Laverne, Guillaume de Tonquédec, Isabelle Carré, un très très beau casting dans ce film. On va déjà un peu tisser l'histoire de base. Eric, qui a eu cette idée de cette histoire qui retrace un peu l'histoire du premier restaurant qui s'est créé juste avant la Révolution française finalement, Eric?
Oui, bah c'est moi. Je travaillais sur la Révolution française et je suis tombé sur dans un livre d'histoire sur cette phrase, la création du premier restaurant. Et donc ça m'a interpellé parce que je m'étais jamais posé cette question-là, quand a été créé le premier restaurant. Et à partir de là, je me suis dit qu'il y avait une histoire rigolote à faire qui parle et de la Révolution française et de notre identité et surtout de la gastronomie et de le destin d'un homme au travers de tout ça. Donc je l'ai raconté à Christophe, qui a eu la gentillesse de dire, essayons d'en faire un film. Et à partir de là, j'ai appelé un camarade qui s'appelle Nicolas Boukrieff et on a écrit ensemble.
Qu'est-ce qui vous a séduit en premier dans le projet d'Éric, justement, Christophe?
Éric. Eric, lui.
C'est déjà beaucoup ?
Ouais, c'est déjà beaucoup. On se connaît depuis longtemps. Avec mon associé Philippe, ça faisait un moment qu'on voulait travailler avec Eric. On avait déjà fait ça dans sa période où il était scénariste. Il avait collaboré à l'écriture de scénarios de films qu'on produisait. Et puis on suivait son cinéma. Et puis même un jour, il m'a fait jouer dans un de ses films, un tout petit rôle, mais quand même, ça m'a permis de l'observer, de le regarder travailler. Et il nous a proposé un jour un film qui était un très beau film, Le Goût des Merveilles. On s'est trompé, on est passé à côté, on l'a pas suivi, et on s'est dit, ben voilà, c'est foutu, mais Eric ne nous a pas voulu, il nous a raconté délicieux, et on a trouvé ça, sans jeu de mots, mais délicieux. Il nous a donné faim, le scénario n'était pas écrit, mais c'est un très bon conteur. Il nous a donné faim, il nous a raconté le cœur, l'essentiel de son film, les paysages, la nature, la nourriture, et puis surtout, son envie de raconter une histoire humaine, simple, profonde.
Grégory, quand on voit un scénario arriver comme ça, est-ce qu'on a une petite appréhension vis-à-vis de la préparation, pour le coup, des plats, de la cuisine, de la technique qu'il va falloir acquérir, souvent peu de temps, avant un tournage ?
Ah non, on est content. Quand on le lit, on est content.
Parce que c'est un super rôle.
Oui, c'est une très belle histoire, c'est un très beau scénario, c'est très bien écrit, c'est très bien dialogué, et les personnages sont beaux. Et après, effectivement, à un moment, on se dit, oui, quand même, la finalité de tout ça, faut apprendre la deux, trois gestes de cuisine, mais c'est pas angoissant, ça. C'est plutôt même intéressant de voir, de plonger dans un univers auquel on est, pour ma part, pour mon cas, complètement étranger. Moi, j'y connaissais rien en cuisine. J'étais capable de rater. Pour moi, les légumes, c'était du riz. Voilà. Je mangeais que des pâtes. Et donc, c'est super de découvrir un univers et puis de travailler. Parce qu'on a pas l'impression de travailler. J'ai rencontré Thierry Charrier qui m'a appris un peu des choses, mais il m'a pas appris. Oui, il m'a appris deux, trois gestes. Mais surtout, c'est, ce qui est intéressant, surtout dans un métier, c'est le regard que les gens qui exercent ce métier posent sur le monde. C'est la manière, l'endroit d'où ils leur fenêtre, quoi. Donc ça, c'est super.
Eric, qu'est-ce qui vous a fait choisir ce quator de comédiens, en passant évidemment de la merveilleuse Isabelle Carré, Grégory, Benjamin Laverne, Guillaume de Tonquédec. Qu'est-ce qui vous a fait choisir ces comédiens-là?
Isabelle, Guillaume et Benjamin, j'avais déjà travaillé avec. Donc ce qui les a fait choisir, c'est le fait que je les connaissais, que je les avais trouvés absolument merveilleux et que j'avais envie de travailler à nouveau avec eux en leur proposant des choses que je ne leur avais pas vu faire. Donc voilà. Monsieur Gadebois, c'est différent. Monsieur Gadebois, je lui avais proposé un rôle qu'il ne pouvait pas faire et je lui avais dit un jour je vous écrirai un rôle, j'espère que vous direz oui. Et donc je lui ai amené et il a eu la gentillesse de le lire vite et de me dire que c'était pas impossible. Voilà, donc c'était un vrai désir, quoi. Vous écrivez en pensant à un acteur, voilà, donc c'était la clé un peu de mon écriture.
On va découvrir tout de suite la bande-annonce qu'on va écouter. Ça s'appelle Délicieux, c'est mercredi au cinéma et on revient juste après avec notre équipe pour continuer à parler de ce film qui est notre coup de cœur ciné cette semaine dans Chute, on écoute la télé. On écoute.
Du beurre, voyons, du beurre. Faut faire bien, faire grand, faire savoureux.
Si vous avez deux minutes, le duc aimerait faire son commentaire.
Lanceron, vos cuissons étaient parfaites.
Comment appelez-vous ces petits chaussons ?
Le délicieux.
Truffes et pommes de terre, c'est bon pour les cochons.
Il nous prend pour des gorées.
Excusez-vous.
De retour dans Chute, on écoute la télé pour notre spécial délicieux. Alors on parlait un petit peu, voilà, du côté du choix des comédiens. On va parler, hein, évidemment, du fait que vous êtes régalé, je crois, un petit peu sur le tournage, Grégory. Moi, j'aimerais avoir le regard du producteur pour le coup. La première fois que vous avez vu le film monté, fini, vous avez ressenti quoi?
Ah, le montage, c'est une période de travail où on est en concentration et donc un film ne se monte pas en une fois comme ça. C'est pas binaire, quoi. On passe pas de zéro, c'est-à-dire des bouts de tournage, de ce qu'on appelle les rushs, qu'il faut assembler. Le montage, c'est une écriture. Truffaut disait, un film s'écrit trois fois au scénario, avec la caméra, la mise en scène, la direction d'acteur et au montage. partage. Et la première projection, le film n'était pas tel qu'il est aujourd'hui, et n'était pas abouti comme il est là. Vous allez le découvrir en venant en salle. Mais j'ai eu un sentiment assez fort avec mon associé. On a fait une petite aparté avant de venir voir Eric pour lui dire ce qu'on ressentait. Et moi, j'ai dit à Philippe, mon associé, j'ai dit, je crois qu'Eric a réussi son coup et qu'il a fait un très bon film.
Bon, ça c'est chouette, c'est une belle remontée, j'imagine. Grégory, est-ce qu'il y a eu des moments particuliers auxquels vous avez pris vraiment énormément de plaisir en tournant certaines scènes?
J'ai pas le souvenir d'une scène en particulier où j'ai bien aimé tout. J'ai bien aimé. C'était un moment complètement. C'était une espèce de confinement avant le confinement, parce qu'on était dans le Cantal. Il fallait faire 10 km en moto pour aller chercher un bout de pain. Enfin, on était dans une petite bulle. Je pense que le lieu où on a tourné, on a fait du passage, du bruit, des discussions, plus que dans les 100 ans qui vont venir et les 100 ans avant, parce qu'il n'y a jamais personne qui va là-haut.
Eric, on va revenir un peu sur le choix des décors aussi. Vous avez trouvé un décor qui est absolument magnifique, avec cette maison ferme un peu abandonnée. Justement, vous avez eu du mal à trouver justement ce décor principal?
Oui. J'ai eu du mal parce qu'on voulait un bâtiment du 18e siècle, et les bâtiments du 18e siècle, soit ils sont rénovés, soit ils sont classés. Donc voilà, je suis tombé sur une ruine, et ça tombait bien puisque c'est l'histoire de la transformation d'un lieu. Donc j'ai pu être libre d'en faire exactement ce que je veux, de planter des pâquerettes si j'avais envie de planter des pâquerettes, de changer les murs de place, etc., etc. Donc c'est le rêve d'un metteur en scène, toujours d'avoir un lieu où vous pouvez entièrement refaire en fonction de votre imaginaire. Donc ça a été long, mais je crois qu'on a trouvé le bon.
Vous avez des témoignages de chefs un peu qui ont vu votre film en avant-première et qui vous ont ému particulièrement de mettre leur métier comme ça en avant, surtout avant, plus avec la crise qu'ils viennent de traverser?
Oui, au fur et à mesure, j'ai rencontré un certain nombre de chefs. Déjà, le premier témoignage, c'est ceux qui m'ont aidé à faire le film, à commencer par Thierry Charrier, le chef du Quai d'Orsay, et Jean-Charles Carman, des deux chefs avec qui j'ai travaillé. Le fait qu'ils aient vu le film, qu'il ça leur ait plu et qu'ils avaient l'impression de ne pas être trahis, c'était déjà énorme. La fierté de ceux qui font, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à un metteur en scène.
On va parler des projets pour terminer. Juste avant que vous nous quittiez, alors ça va être chargé, Grégory. Alors dans 2 mois à peu près, en DVD va sortir Président, qui est sorti le 30 juin dernier au cinéma avec Jean Dujardin, une sacrée aventure aussi. Nous on a beaucoup ri. Hein. Après le Cantal, la Corrèze, c'est pas si loin l'un de l'autre en plus.
Non, c'était tout à côté. Oui, j'ai retrouvé mes repères.
Bon, ça sortira en DVD, et puis aussi on a des amis, Lauriane Descafres et Yvonique Muller, qu'on suit nous depuis un moment, qui ont réalisé leur premier long métrage après avoir fait un cours avec vous justement, qui va s'appeler Le Déhanché d'Elvis, et ça sera pour 2022. Hein.
Eh oui, certainement, oui, 2022.
C'était sympa de les retrouver pour un long métrage justement après le cours que vous aviez fait avec Madeleine.
Ah oui, moi je les aime beaucoup, Lauriane et Yvonique, oui, et il y en a même encore un autre, et puis un autre, enfin oui, c'est des nouveaux compagnons d'aventure, oui.
Bon, une aventure qu'on va suivre évidemment. Eric, on termine aussi par vos projets, maintenant que le film là va appartenir au public dans 2 jours, je suppose que déjà la suite est déjà un peu dans votre tête. Est-ce qu'on a les prochains films pour les années qui vont venir, qui commencent déjà à s'écrire, peut-être à se préparer, qui sont en préparation, tournage?
Je suis en tournage là, donc avec Monsieur Gadebois, donc on peut dire ça, et puis on a même un autre projet l'année prochaine.
Bon, ça n'arrête pas.
Voilà, on est devenus des vieux camarades.
C'est bien, écoutez, au moins, voilà, on aura le plaisir de vous retrouver. En tout cas, c'est délicieux, ça sort mercredi dans les salles. Merci à vous trois d'avoir été avec nous, et puis on vous dit à très bientôt.
Merci à vous.
C'est vrai qu'il était cuisinier?
Tu peux pas renoncer à t'enfermer ici alors qu'il y a tant de choses à vivre.
Je m'appelle Louise, j'aimerais devenir votre apprenti.
Tu es trop vieille pour faire un apprenti. J'ai perdu le goût de cuisiner.
Apprenez-moi, et je suis sûre qu'elle reviendra.
C'est un bon coin que vous avez là. Si vous donnez un peu de mal, les diligences s'arrêteront ici avant la fin de l'automne.
Il faut partager cet endroit avec tout le monde.
Noble, bourgeois ou paysan.
Nous aurons besoin de tout l'espace pour une grande chambre à manger. Inventer un lieu de gourmandise, un lieu de bouche.
Et dans un instant, Nicoletta nous rejoint dans Chute, on écoute la télé. Alors à tout de suite.
écoute la télé.
Le talk show radio.
L'invité d'honneur de la semaine.
Et notre invité aujourd'hui dans Chute, on écoute la télé, eh bien, on va fêter ses 50 ans de scène. C'est jusqu'au 7 novembre au Lido de Paris, mais elle sera également dans notre belle région du côté du Périgord à Périgueux le 8 septembre. Dans quelques jours, c'est Nicoletta qui nous rejoint. Bonjour Nicoletta.
Bonjour, bonjour.
Quel plaisir de vous avoir avec nous pour la première fois dans notre émission. Une artiste qui fête ses 50 ans de scène comme vous, je pense que c'est un moment que vous attendiez, évidemment ces derniers mois, certainement encore plus que d'habitude, hein, avec eh bien ces moments où on n'a pas pu monter sur scène. Pour une artiste comme vous, ça a dû être difficile.
Je devais faire avant cet anniversaire, mon atour porté.
Le partage avec le public, justement, c'est aussi une tournée des cathédrales, des sites absolument magnifiques. Là, ça va passer à Albi, à Villefranche de Rouergue, ça va passer à Montauban, à Périgueux, dans les jours qui viennent. Vous avez choisi soigneusement, justement, ces sites-là pour pouvoir vous produire dans les cathédrales.
Je m'occupe de rien. C'est mon compagnon qui est à côté de moi, là, qui s'occupe de tout ça. On parle ensemble à la maison, voilà, nana, mais c'est lui qui choisit les lieux. Il est très méticuleux. J'ai fait des endroits magnifiques, j'ai fait des abyssales, j'ai fait la cathédrale de Laon, qui est une des plus vieilles cathédrales en France, qui est du 9e siècle, qui est magnifique. J'ai fait la cathédrale de Lyon plusieurs fois. Fourvière, qui est sublime. Il y a toutes ces cathédrales, ces lieux ont des histoires importantes. C'est chargé, comme lui, c'est encore plus chargé qu'un théâtre, vous savez, au point de vue vibratoire. Et je dis toujours cette anecdote quand j'ai chanté à la cathédrale d'Orléans. Je suis arrivé devant la scène, c'est très grand, hein, c'est une grande cathédrale. À un moment donné, je chante, entre deux chansons, j'ai failli éclater de rire. J'avais une petite Jeanne d'Arc à côté de moi avec le petit roi. T'es obligé d'y penser. Et oui, c'est habité quand même. Dis quand même, il y avait la Jeanne d'Arc avant toi. Et c'est ça que j'aime, ce côté réjouissant de rentrer dans une page d'histoire. Parce que les lieux sacrés qu'on a en France sont magnifiques. Quand on voit ces cathédrales, les vitraux, les décors, les peintures, et en plus, beaucoup de régions les restaurent. Puis il y a plein d'élèves, des arts déco qui viennent faire des travaux. Non, c'est formidable. Hein. On protège tous ces lieux du patrimoine quand même. Les gens font beaucoup d'efforts.
50 ans de scène, vous devez avoir des anecdotes absolument incroyables que vous livrez sur scène. Et puis votre livre.
Tout est dans le livre. Hein.
Mais vous devez en livrer aussi sur scène. Pour vos 50 ans de scène, vous devez en raconter aussi certainement des anecdotes.
Écoute, je vous dis, je pense, et c'est vrai, on me l'a conseillé, moins on parle sur scène, mieux c'est. Parler beaucoup sur scène, ça distrait trop les gens. Ça désacralise. Il y a un côté musical qu'il faut respecter. Il faut que les textes des chansons que les gens attendent. Il y a des gens qui vont venir parce qu'ils aiment telle et telle chanson et d'autres parce qu'ils en aiment d'autres. Chacun a son rendu et son ressenti sur un titre qu'on va chanter. Il faut pas enlever ça, c'est sacré pour le public. Donc si tu te parles trop entre les chansons, moi je l'ai fait. Faut faire attention. Faut parler deux ou trois fois, c'est tout.
Le Lido, c'est une scène mythique aussi quand même, hein, de se produire là-bas.
C'est amusant. Bon, j'aurais pas les girls avec moi, hein. Et la scène m'est confiée. Et il y a une belle machinerie d'éclairage qui est formidable.
La scène, ça vous a bercé toute votre vie. Moi, j'ai été bercé à vos chansons, Nicoletta. Toute ma jeunesse, ma maman me faisait écouter, évidemment, vos chansons. Je vois aujourd'hui encore des grands-mères, des mamans qui apprennent la chanson Mamie Blue à leurs petits-enfants. Ça vous touche, ça, particulièrement?
Bien sûr, parce que quand j'étais petite fille, moi, on m'apprenait Papa Noël. Et j'ai connu Tino Rossi à mes débuts. Papi Tino, c'était sa son phare, petit Papa Noël. Petit Papa Noël. C'était son grand tube qui rentrait dans toutes les familles. Et toutes les plein de générations ont eu droit à cette chanson sous le sapin de Noël, le jour de Noël. Bon, moi, c'est Mamie Blue. On a tous, mon ami Hervé Villard, c'est Capri, c'est fini. On a tous un tube magique comme ça qui est rentré dans les familles. C'est marrant, hein. Et quand tu as ça, c'est un lien extraordinaire. Moi, je vois dans les églises, quand on fait le gospel, une partie française, bien sûr, une partie américaine. La partie française, je chante Élément Soleil, Mamie Blue, etc. Eh bien, je vois trois générations. Hein. La grand-mère, la mère et la jeune fille. Et elles viennent à trois. Hein.
On évoque évidemment la scène à tourner des cathédrales, le Lido, mais aussi... Vous êtes comédienne, parce qu'on vous a vu, par exemple, dans le très beau film de Dominique Malval, Les Ombres du Passé, dernièrement. C'est quelque chose qui vous amuse, ça aussi?
Oui, j'ai commencé un film long-métrage à 25 ans avec José Giovanni. Ça m'avait beaucoup plu. Et j'ai fait un autre film avec Raymond Pellerin, qui s'appelait Le Manoir des Veuves. J'avais le rôle d'une criminelle. On veut toujours des rôles un peu particuliers, mais c'est bien, il faut de la matière pour travailler. Et là, avec
Denis Malval.
Avec Denis, qui est un très bon metteur en scène, j'ai trouvé. Il m'a donné un joli rôle. C'est pas un grand, je ne suis pas longtemps à l'écran, mais c'était très intéressant à jouer, puisque je bouleverse un peu le scénario. Puisque j'annonce qui est le criminel. Et c'est, je suis une mère meurtrie parce qu'il s'agit de son fils. C'est un beau rôle, très beau rôle.
S'il y avait des producteurs qui nous écoutaient, là, vous avez envie de jouer quoi comme rôle aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous plairait?
Je suis incapable de répondre à cette question. Je pense que l'important, c'est d'avoir un scénario dans les mains, de connaître l'équipe qui va jouer, surtout le metteur en scène, qui va jouer, et que le rôle nous plaise. Un film, c'est un bon scénar, un bon metteur en scène, des bons comédiens et un bon rôle. Donc je peux pas dire que je vais faire tel rôle, tel rôle, je n'en sais rien. C'est une proposition qu'on doit nous faire.
En tout cas, vous êtes toujours attentive aux propositions de cinéma ou de télé qu'on peut vous faire aujourd'hui.
Mais je refuse beaucoup de pièces de théâtre parce qu'elles sont tellement nulles. Ah non.
Ça prend beaucoup de temps, je pense
non,
aussi.
Non, moi je chante, non, moi pièces de théâtre, rapporter d'argent à un système qui fait des vaudevilles douteux, et non. Les bonnes pièces, c'est Chantal Latsouze, mon amie, qui les joue, hein, ou Margot. Elles ont de la matière pour jouer. Mais sinon, on me propose que des imbécilités. Et pourquoi? Parce qu'ils veulent des gens qui ont un nom pour faire l'affiche, compris. Mais j'ai autre chose à faire.
Bon, revenons un petit peu à la musique pour revenir sur cette tournée, puisque on le rappelle, hein, vous fêtez vos 50 ans de scène. Quels sont les titres, vous savez, les titres que systématiquement vos fans attendent le plus?
Ça dépend du... Oui, mais ils aiment bon, Mamie Blue, bien sûr, Il est mort, le soleil est très très apprécié, la musique, Fio Braviglia, Les volets clos, non, ça, tout ça c'est bien aimé ça.
Vous aviez été touché que justement la jeune génération de la Star Academy, par exemple, reprenne la musique?
Ah ben je trouve ça très sympa, moi j'ai revendu des compiles 92 000. Alors donc ça...
C'est génial.
Ah, non oui, moi j'allais pas en râler, hein. Bravo, merci.
En tout cas, vous étiez contente du coup.
Non, mais c'était mignon. Les débuts de Star Academy, c'était charmant. On est d'accord? C'était trop mignon, c'était pas Love Story quand même. C'était des gamins qui apprenaient à chanter, qui apprenaient à danser. C'était très joli, je trouve. Non, c'était mignon.
Vous y avez participé d'ailleurs, vous y avez été sur des primes.
Émission, oui.
En tout cas, la scène, c'est le 8 septembre, c'est à Périgueux. Hein, ensuite, Albi, Montauban, Villefranche de Rouergue, non loin de notre belle région. Il y aura plein de dates aussi, vous pouvez retrouver bien sûr sur Internet. Et puis jusqu'au 7 novembre, le rendez-vous est au Lido de Paris pour fêter vos 50 ans de scène.
5 et 7 novembre.
C'est les deux derniers rendez-vous, ou il y en aura peut-être d'autres après?
Ah non, mais après je pars en tournée. Et j'attends que mon producteur
travaille.
En plus, les cases, moi, oui.
Bon, mais en tout cas, c'est chouette. Merci beaucoup, Nicoletta.
C'est moi qui vous remercie. À bientôt.
Et à bientôt. Merci.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Coup de cœur télé consacré à une mère parfaite. La mini-série débarque ce soir sur TF1 pour deux soirées événements à la tête d'Omer Sisley et Julie Gayet, qui est notre invitée pour en parler dans le rôle d'Hélène Berg. Bonjour Julie.
Bonjour, merci de m'inviter.
Merci d'être avec nous, fidèle de l'émission. On se quitte plus, hein, Julie, franchement. Et là, une mère parfaite, c'est vraiment la mini-série événement de cette rentrée où tu joues le rôle d'une mère de famille qui va en apprendre des vertes et des pas mûres sur sa fille, je crois bien.
Oui, donc c'est ce soir sur TF1. Mais comme on le sait, une mère parfaite, bah, la mère parfaite, ça n'existe pas. On a beau essayer d'être le plus parfait, nos enfants, je pense, nous en voudront toujours. Ils auront besoin, en tout cas, pour se construire, de nous en vouloir. On sera jamais tout à fait parfait. Donc je me dis, voilà, déjà aimons-les. Mais donc elle va forcément aller de déception en déception et avec ses enfants. Mais c'est surtout un thriller haletant, assez surprenant sur cette relation mère-fille où vous ne reconnaîtrez pas Omer Sisley. Ça, je peux vous le dire. Vous allez être surpris au bout d'un moment. Vous allez dire, mais c'est qui ce garçon? Ah, mais c'est Omer Sisley que je retrouve, que je connais bien, qui est un bon camarade puisqu'on a eu la même formation de théâtre. Et j'étais très très heureuse quand on m'a proposé de tourner avec Omer Sisley. Voilà, donc on a passé 3-4 mois dans les séries. Ce qui est le plaisir de la série, c'est de construire un personnage sur plusieurs épisodes. Donc on a passé 3-4 mois et j'espère que vous aimerez.
C'est une adaptation, hein? De Perfect Mother, c'est ça?
Oui, d'un roman. Donc vraiment le côté thriller, comme un bon, je veux dire, de page, on dit un page turner, c'est ça l'expression, mais vraiment où on se dit, ah là là, comment ça va finir, fonctionne très bien, et en même temps, c'est très subtil sur la relation mère-fille, c'est très beau parce que, comme dirait ma grand-mère, à petits enfants, petits problèmes, à grands enfants, grands problèmes, cette mère a cette fille de 20 ans, 19 ans, qui va l'appeler, elle rentre dans un commissariat et elle lui dit, maman, on m'a demandé d'aller, je suis accusée de meurtre, on me demande de rentrer dans un commissariat. Donc ce truc atroce, moi c'est mon pire cauchemar, c'est que mes ados...
Le personnage vit à Berlin en plus et vit pas sur place.
Oui, c'est entre Paris et Berlin, parce qu'elle a essayé de mettre de la distance avec sa mère, on comprend qu'elle a voulu faire différemment de sa mère, qui travaillait, qui devait être une femme assez indépendante et pas forcément maternelle. Elle a eu envie vraiment de dédier sa vie à ses enfants, éduquer ses enfants, et sa fille va à Paris pour des études, et voilà, tout bascule. Pire cauchemar, une soirée qui dérape. C'est dur de protéger ses enfants. On peut pas protéger complètement ses enfants. Donc voilà, pire cauchemar. Et elle va arriver en courant à Paris. Il fallait lui trouver un avocat. Enfin voilà, et elle va se battre pour sa fille.
Peut-être ça va les rapprocher. On verra. Qui sait? Tu as eu la curiosité de vouloir lire le roman avant ou pas du tout justement toi? Tu fais partie de ceux qui veulent pas lire du tout pour garder cette fraîcheur après.
Ben alors moi je fais partie de ceux qui ne lisent pas du tout, oui, même au contraire pour pas être influencés. Et en même temps ma mère l'avait lu. Ma mère adore les polars, les thrillers, et elle en lit beaucoup. Et donc, ce qui est important pour moi, c'est l'essence. C'est ce qu'elle en a gardé. Donc, je l'ai un peu, travaillé, bassiné en lui disant, alors, mais pourquoi? Qu'est-ce qui te semblait important? Mais surtout, c'est la productrice, Iris, qui avait produit pour TF1 déjà Le Bazar de la Charité, qui est une grande productrice, qui travaille chez Quad, qui m'a beaucoup parlé du roman, puisque c'est elle qui avait pris les droits et la raison pour laquelle elle voulait en faire une série. Et vraiment, c'est très 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 fort. Elle a su, peut-être parce qu'elle est allemande, la série joue justement sur ce sentiment de culpabilité qu'on a les mères, ou de peur par rapport à nos enfants. Donc c'est très angoissant. Et puis sur les jeunes filles aujourd'hui aussi, sur les violences faites aux filles, c'est-à-dire au fait qu'elles sortent le soir. C'est encore compliqué ce rapport aux filles, la différence entre une fille et un garçon, c'est que souvent les filles, pour pouvoir être plus, j'allais dire, sécures, donc elles doivent sacrifier pour la sécurité un peu de leur liberté et parfois rentrer plus tôt et s'habiller autrement, ce qui n'est pas juste du tout. Pourquoi? Voilà.
Ouais, c'est encore un autre débat, ça, oui, ça c'est sûr. En tout cas, on va découvrir Une mère parfaite, 4 fois 52 minutes, ce soir. Et lundi prochain, on va pouvoir découvrir 2x2 épisodes. On peut aussi encore, sur certains cinémas, aller voir C'est quoi ce papy, qui est sorti le 11 août dernier au cinéma, où là aussi, évidemment, tu tiens pour la troisième fois ce rôle qu'on aime tant aussi. Et puis plein de belles choses pour l'année qui s'annonce, je crois.
Oui, plein de films, vous allez voir. Voilà, ça y est, c'est reparti. On retourne dans les salles et vraiment aller au cinéma. Et vous verrez Chantal Latsou et Patrick Chenet dans C'est quoi ce papy. C'est aussi un moment, un grand moment d'émotion. En tout cas, on rit en famille et on est ému. Donc je ne vais pas spoiler Une mère parfaite, mais vous verrez, ça va loin.
On découvre ce soir Une mère parfaite, en tout cas sur TF1. Merci Julie d'avoir été avec nous. On va se quitter avec la bande-annonce et on te dit à très bientôt du coup.
Merci beaucoup, merci Alain.
Ah, t'as pas complètement oublié ta petite maman chérie?
Maman, la police veut me parler.
C'est passé quoi?
Il y a eu un mort. Je pense que c'est moi qui l'ai tué.
Si vous voulez vraiment l'aider, trouvez-lui un avocat.
J'ai besoin de ton aide. Je l'ai pas tué.
Il faut que tu me laisses faire.
Si c'était ton fils, tu laisserais faire. Je sais plus quoi penser alors. Qu'est-ce qui s'est passé?
Coup de cœur télé consacré à Demain nous appartient, et on a vu une nouvelle famille arriver dans la série avec Charlotte Gassiot dans le rôle d'Audrey qui est justement avec nous. Bonjour Charlotte.
Bonjour.
Ça y est, la famille est en train de s'installer depuis maintenant quelques jours dans Demain nous appartient, et Charlotte, tu y joues le rôle d'Audrey, une mère célibataire de 4 enfants. C'est pas facile, tous les jours elle essaye de venir s'installer à 7, et puis évidemment tout se passe pas forcément comme prévu, hein.
Évidemment, rien ne se passe jamais comme prévu dans cette série. Audrey s'installe à 7 avec ses enfants. Elle a réservé une maison qui se trouve être une arnaque et elle devait avoir un poste d'esthéticienne dans un salon qui a fermé au moment où elle arrive. Donc elle est à la rue avec ses quatre enfants. Les choses sont un peu difficiles pour elle. Adrien s'est déjà occupé d'elle, de la sauver, de l'installer dans la maison avec Alma et Samuel. Ils vont faire tout pour s'en sortir. Audrey fait tout pour ses enfants et pour que tout aille bien pour eux.
Qu'est-ce qui t'a séduit dans ce personnage d'Audrey, justement, Charlotte?
Ben moi, ce côté mère courage, j'ai trouvé ça super. Et puis en plus, j'avais pas joué de rôle de maman depuis que je suis maman. Ça me faisait plaisir d'exploiter ce côté maternel chez moi que j'avais pas encore eu. Alors même si cela sent bien plus grand que les miens, je pense que finalement, la tendresse et l'amour qu'on a pour ses enfants, ils changent pas avec leur âge.
Alors, l'arrivée dans Demain nous appartient, évidemment, t'as emmené à 7 et t'as embarqué à 7 pour plusieurs semaines. Ça va te délocaliser comme ça dans le sud? Tu le vis comment?
Alors, je suis pas totalement délocalisée parce que je suis encore à Paris, les enfants sont scolarisés à Paris.
Ouais. Donc,
Paris,
tu remontes tous les week-ends, quoi.
Voilà. On fait beaucoup d'allers-retours. Et puis, voilà, ma vie dans le sud, c'est quand même très agréable.
Eh oui, c'est clair. Alors, clairement, aujourd'hui, est-ce que la famille d'Audrey s'installe durablement dans Demain nous appartient? Ou c'est juste pour quelques semaines, ce personnage-là? Ou est-ce que c'est vraiment plutôt du long terme?
On est là pour du long terme. On est là pour rester.
Ah, c'est génial.
Fanny Roussel s'installe, ce sera une des nouvelles familles stars de la série.
Avec évidemment des secrets, on imagine bien qu'ils sont dévoilés tout au fur et à mesure des semaines.
C'est ça. Bon, j'imagine qu'il va se passer plein de choses. Les enfants commencent le lycée avec les nouveaux profs, le nouveau lycée, le nouveau décor du lycée. Donc voilà, il va se passer plein de choses.
Alors oui, ce nouveau décor de lycée, là justement, qu'on a découvert la semaine dernière, tout a été refait, puisque l'ancien lycée, il a été découvert de l'amiante, et du coup, tout le monde a été délocalisé au nouveau lycée Agnès Varda, dans la série, et ce qui permet en fait d'explorer un tout nouveau décor. Hein.
Oui, un nouveau décor, j'ai pas encore trouvé dans le lycée, mais j'y suis passée, et c'est vraiment, ils ont fait un magnifique travail, c'est très très beau comme lycée.
Comment t'as été accueillie dans la grande famille de Demain nous appartient? Parce que voilà, t'as affaire à une équipe qui est soudée. Alors, il y a eu beaucoup de départs, hein, mais voilà, il y a plein de nouvelles familles et un renouvellement complet, hein, de cette série dont tu fais partie là.
J'ai eu un accueil absolument adorable, des anciens, des nouveaux, même de ceux qui partent. Voilà, je suis allée dîner avec certains anciens, j'ai rencontré mes enfants de fiction la veille du tournage, et puis notre complicité a été immédiate. C'était vraiment un plaisir de les rencontrer. C'est un plaisir de jouer avec eux. Il y a vraiment un côté grande famille chez DNA.
Alors, renouvellement complet dans DNA, mais renouvellement complet aussi dans Sam. On met vraiment tout à plat. On quitte la ville. On va s'installer à la campagne. Et donc, tu fais partie de cette nouvelle aventure aussi pour cette 6e saison de Sam. Et ouais. Donc, du coup, tu as dû tourner les deux en même temps. Comment ça s'est passé? Parce que Sam, c'était pas fini.
Exactement.
Quand tu as démarré DNA.
Non, Sam, c'était pas fini quand j'ai démarré DNA. Donc, en fait... Dès que j'étais pas sur Sam, j'étais sur DNA. À partir du mois de juin, ça a été un été assez intense.
Oui, j'imagine bien.
J'ai eu la gentillesse de me laisser un peu de vacances, DNA, parce que voilà, ils ont bien compris que c'était très intense de faire des allers-retours entre les deux tournages. Mais oui, Sam, cette année, part à la campagne. En fait, le personnage d'Aurélie, à la fin de la dernière saison, avec son amoureux, il décide de s'installer à la campagne, faire de la permaculture, vivre vraiment leur projet écologique à fond. Sam les rejoint avec Xavier pour l'anniversaire d'Aurélie. Sam reste. Et Xavier
ouais, décide
reste.
De changer de vie elle
et,
aussi.
Voilà, et on travaille dans la nouvelle école dans laquelle Aurélie travaille et qui est dirigée par la merveilleuse Chantal Latou.
Ah oui, ah, vous avez dû vous amuser aussi hein, sur le tournage. Moi j'ai hâte de découvrir cette 6e saison.
Chantal Latou qui est directrice d'une école hors contrat un peu à l'ancienne avec blues et tout le monde en rentre devant le drapeau. C'est assez drôle.
Comment s'adapte justement à ce rythme de tournage qui est pas du tout le même hein, entre DNA et Sam, parce qu'on sait que sur DNA, voilà, vous avez quasiment 28 minutes par jour à mettre en boîte. C'est vraiment très très soutenu. Et justement, quand tu fais des allers-retours entre les deux tournages, faut s'adapter quand même assez vite à ce rythme.
Ah oui, c'est un rythme totalement différent. On a moins le temps de faire les choses. On a beaucoup plus de textes dans la même journée. Et en même temps, il y a quelque chose qui, moi, m'a rassurée, c'est que on va vite, mais on va pas vite au détriment de la scène, au détriment du jeu. Il y a vraiment le réalisateur qui s'occupe de nous, il attend quelque chose de la scène, et tant qu'il l'a pas, on refera. Même si on a moins de temps pour faire les choses, on veut avoir quelque chose de qualitatif. Donc je trouve que malgré ça, ce qui me faisait peur, malgré le rythme, on a quand même des jolies scènes et on a le droit d'explorer quand même des choses.
Bon, on va explorer évidemment cette nouvelle famille alors qui est présente à l'antenne hein, depuis 3 semaines à peu près.
Oui, c'est ça.
Donc il va lui en arriver, je suppose, pendant le mois de septembre. Tu peux nous dire 2-3 petites choses ou pas sur ce qui va arriver dans les prochains jours?
Ben, Audrey, elle a fait de la manucure sur la plage, à la Paillotte.
Ouais.
Puis les enfants vont commencer la rentrée scolaire. Et là, eux, il va leur arriver pas mal de trucs parce que, comme je te disais, DNA a eu la gentillesse de me laisser un peu de vacances. Donc Audrey va partir... 15 jours, comme moi je suis partie 15 jours.
D'accord.
Mais elle, pour un boulot à Perpignan qui va évidemment mal se passer, parce qu'elle a du mal à garder un boulot, cette fille. Et quand elle va rentrer à 7, elle va encore trouver un autre boulot.
Et là, on verra bien.
Je dirais pas. Et là, vous verrez bien.
Exactement.
Voilà. Je commence à tourner ces scènes-là, d'ailleurs, demain.
Eh ben, écoute, on va découvrir tout ça dans les semaines à venir. Charlotte, on te retrouve également d'ici quelques jours au Festival de la Fiction Télé de La Rochelle, dans notre belle région de Nouvelle-Aquitaine, où tu vas venir nous rendre visite. C'est génial, ça.
Mais ouais, je suis trop heureuse. J'adore aller au Festival de La Rochelle. C'est vraiment un festival auquel où je prends beaucoup de plaisir à chaque fois. J'étais frustrée l'année dernière de pas venir et puis que ça se passe à Paris, c'est pas comme d'habitude.
Mais oui.
Donc voilà, cette année, je serai là.
Eh ben, autant te dire que nous aussi, on est très très contents qu'il soit de retour à La Rochelle. Je te le dis. Bon, Charlotte, on se retrouve donc, allez, dans une petite dizaine de jours à La Rochelle. Et puis nous, on t'embrasse très très fort, évidemment. Et on te suit dans Demain nous appartient, et bien, du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.
Merci beaucoup.
Merci à toi, à très vite.
À très vite.
Et dans un instant, notre spécial boîte noire, Yann Gozlan et Pierre Ninet sont dans les starting blocks. Alors, on revient tout de suite après ça. À tout de suite.
La télé, le talk show radio, le coup de cœur ciné de la semaine.
Notre coup de cœur ciné, ça sort mercredi dans les salles et consacré au film Boîte Noire, un véritable coup de cœur puisqu'on a pu le voir au festival du film francophone d'Angoulême et on a la grande chance de recevoir son réalisateur Yann Gozlan qui est avec nous. Bonjour Yann.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Je te l'ai dit Yann, un vrai coup de cœur, un film où on apprend plein de choses. Boîte Noire, on va planter le décor un peu de l'histoire de Mathieu, un acousticien aéronautique qui à la suite d'un crash va devoir enquêter sur ce qui s'est véritablement passé. Va soulever évidemment beaucoup de loups dans cette histoire, mais une histoire menée tambour battant pendant plus de 2 heures avec aucun temps mort, et ça c'est hyper rare franchement.
C'est ce qu'on a tenté avec en tout cas les scénaristes, le monteur et toute l'équipe du film, de faire vraiment un thriller haletant, captivant. C'était vraiment mon ambition première, mais qui se situerait dans un milieu à méconnu qu'on a peu vu au cinéma, qui est le milieu de l'aéronautique et de l'aviation civile, et en particulier dans ce bureau d'enquête et analyse, le BEA, qui est l'autorité compétente en charge des accidents d'avion quand il y a un crash. Il faut savoir que c'est une autorité dont l'expertise et le professionnalisme est vraiment reconnu à travers le monde. Ce sont des experts très compétents qui enquêtent et qui tentent de déterminer les causes d'un accident et d'un crash. Et Mathieu, Pierre Ninet, qui interprète le rôle de Mathieu Vasseur, joue le rôle de cet enquêteur. Et le film raconte la plongée de ce personnage dans cette enquête qui va vite tourner à l'obsession chez lui.
Ah oui, c'est une véritable obsession, ça je crois qu'on peut le dire. Moi j'aimerais savoir comment t'as préparé ce film. Comment tu t'es immergé justement dans le BEA pour pouvoir arriver à préparer, à être aussi précis.
Et ben justement, c'est vraiment, j'ai eu la chance avec les scénaristes, on a été voir, on a toqué à la porte du BEA qui se trouve donc au Bourget. On leur a exposé notre projet. Moi j'avais vraiment l'idée au départ de mettre au centre de cette histoire cette fameuse boîte noire, parce que je trouve que c'est un objet iconique, c'est un objet fantasmagorique. Les journalistes nous en parlent sans cesse quand il y a des accidents, mais sans qu'on sache à quelle réalité ces boîtes noires correspondent. Et donc on a été voir les gens du BEA et j'ai eu la chance, voilà, ils m'ont ouvert leurs portes et j'ai eu la chance vraiment d'avoir des entrevues, des entretiens réguliers avec ces techniciens, et pour apprendre comment ils travaillent, pour glaner, si vous voulez, énormément d'anecdotes qui ont nourrit le scénario, parce qu'au départ moi je suis pas du tout ingénieur, je connais pas ce monde, mais j'adore moi en tant que spectateur, vous savez, les films qui vous prennent par la main, qui vous plongent dans un univers complètement méconnu et vous découvrez les coulisses de ce monde très mystérieux.
Alors on apprend plein de choses sur cette fameuse boîte noire. Il est vrai que cette fameuse boîte noire, finalement, elle n'est pas noire. Et c'est un circuit, en fait. C'est un circuit électronique.
Oui, oui. C'est une sorte de caisson en métal, en titane, qui est censé être résistant à différents chocs, au feu, pouvoir rester sous l'eau extrêmement longtemps. Et vous avez de multiples couches de protection qui protègent. C'est une carte mémoire, une grande carte mémoire qui enregistre. En tout cas, pour le film, c'est le CVR. On appelle ça le Cockpit Voice Recorder, qui enregistre toutes les conversations conversation et les bruits dans le cockpit. Et ensuite, les analystes du BEA tentent d'analyser cet enregistrement. Il faut savoir que l'environnement d'un cockpit d'avion est un environnement extrêmement bruyant. Vous avez le bruit du moteur, vous avez le bruit de la ventile. Il suffit que pendant le vol, il y ait des turbulences pour que ça va désagréger un petit peu l'enregistrement. Et du coup, le travail des techniciens du BEA est évidemment très très important pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Vous avez des difficultés même pour reconnaître, est-ce que c'est la voix du commandant de bord, est-ce que c'est la voix du copilote. Donc il y a un vrai travail d'acousticien en fait pour déterminer qui fait quoi. Et il faut savoir que ils parviennent juste avec en écoutant cette bande, par exemple, ils peuvent déterminer le régime moteur d'un avion, par exemple. Donc c'est ils parviennent à savoir tel type de bouton qu'ils entendent qui est pressé. Alors ça c'est telle commande. Donc c'est vraiment c'est un travail d'orfèvrerie, de méticulosité. Ils ont comme un pouvoir qui je trouvais vraiment évidemment fascinant.
Pierre s'est imposé rapidement dans ce projet, ce qui porte le film de manière incroyable. On va lui dire dans un instant, il va nous rejoindre, mais il est absolument hallucinant.
Oui, c'est un film vraiment très subjectif, hein. Il est de tous les plans, c'est une enquête. Donc on suit cet enquêteur, mais c'est pas un flic, hein. C'est pas un détective privé, c'est un ingénieur. Et je voulais vraiment conserver cette subjectivité, ce point de vue, épouser le plus possible le point de vue de ce personnage. Et Pierre amène vraiment évidemment tout son talent, mais aussi c'est un personnage que je voulais un peu geek, que je voulais fébrile, que je voulais fragile, introverti. Et il fallait qu'on se pose des questions sur la santé mentale même du personnage, parce qu'à un moment donné on se demande si ce personnage qui est obsessionnel, qui est en quête obsessionnelle avec la vérité, est-ce que lui-même ne franchit pas la ligne blanche ou la ligne jaune, et est-ce que lui-même ne devient pas un complotiste. Et donc il fallait qu'on doute, il fallait qu'à la fois on s'identifie à ce personnage et qu'en même temps on doute et qu'on se demande, mais en fait, peut-être ce type a complètement tort. Peut-être qu'il se trompe, qu'il est en train de vriller. Et Pierre amène cette ambiguïté, amène cette ambivalence et cette fragilité, en fait, chez ce personnage qui paraît très, très obsessionnel et en même temps très humain, parce que très fragile avec des failles.
Ça fait un travail sur le son aussi, Yann, qui est totalement incroyable. On est vraiment immergé dans ce décryptage, dans ce son, justement, qui est décrypté des boîtes noires. Comment t'as fait pour justement faire ce travail sur ce son-là? Comment tu t'es entouré?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai coécrit le film, un des scénariste s'appelle Nicolas Bouvet et il est monteur son à la base. Donc déjà à l'écriture, si vous voulez, c'était une problématique que j'avais en tête déjà dès l'écriture, sachant que j'allais mettre au centre de ce récit cette fameuse boîte noire qui enregistre toutes les conversations et les bruits dans le cockpit. Donc ça a été déjà le premier point. Donc dès l'écriture, il y avait déjà la description de son, et puis pendant toute la phase de post-production, de montage son et de mix, ça a été un travail très méticuleux qu'a poursuivi Nicolas Bouvet, le monteur son, et tout ça pour rendre compte de cette subjectivité dont on parlait. Il y a une vraie subjectivité sonore, c'est-à-dire qu'on entend exactement ce qu'entend, ce que perçoit l'enquêteur qui interprète Pierre Ninet. C'est aussi un personnage, il faut le dire, qui est assez fragile. Il a aussi des acouphènes, il est victime d'hyperacousie, c'est-à-dire que les sons, parfois quand il a des crises d'angoisse, l'agressent, il entend les sons beaucoup plus forts. Et donc ça, c'était aussi intéressant, c'est de mettre le spectateur dans cet état, dans l'état dans lequel est le personnage, dans cette bulle. Ça crée, je trouve, quelque chose de voilà, ça renforce l'identification et la subjectivité que je souhaitais avoir dans le film.
On va accueillir Pierre Ninet dans un instant. Boîte Noire, c'est le film mercredi, à ne pas rater en salle. On va écouter la bande-annonce. Yann, merci d'avoir été avec nous pour en parler de façon aussi passionnante. Vous apprendrez en plus plein de choses. Je vous conseille vraiment, si vous avez envie, voilà, de vraiment de tout oublier pendant 2h08, vous allez vraiment décompresser totalement. Vous allez vraiment être embarqué dans cette histoire. Merci Yann.
Merci à vous, merci infiniment.
Et Pierre Ninet nous rejoint juste après. À tout de suite.
J'ai des doutes sur le crash. Il y a un problème avec la boîte noire. Elle a été falsifiée.
Vous avez intérêt à avoir raison.
Je comprends pas qu'on ait pu lui confier l'enquête. Il a encore entendu des sons fantômes.
Il y a eu un attentat. T'es le premier à l'avoir entendu.
Ce que j'ai entendu, c'est une putain de suite d'incohérences.
T'es en train de te monter la tête. La vérité sur le crash, moi je la connais.
Vous êtes allé trop loin.
Ce que t'as fait, tu l'as fait pour toi. T'es prêt à marcher dessus pour prouver tes délires.
Voilà la bande-annonce de Boîte Noire. On vous l'avait promis. Pierre Ninet nous rejoint. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et donc qui joue le rôle de Mathieu. Mathieu, cet acousticien aéronautique qui décrypte cette boîte noire et qui est embarqué dans cette enquête, un peu malgré lui et à la fois par obsession aussi. On a planté le décor avec Yann. Mais la première chose que j'ai envie de te demander, Pierre, qu'est-ce que t'as ressenti à première lecture du scénario et qui t'a fait accepter ce projet tout de suite?
Je trouve que Yann maîtrise le thriller comme personne en France. Il est en train de creuser un sillon d'une maturité, d'une précision dans la mise en scène. Donc j'avais très envie. Et puis il y avait un personnage effectivement obsessionnel, un film assez paranoïaque qui, je pense, va diviser les spectateurs, même sur qui est coupable, qui a raison, qu'est-ce qui est du complot, qu'est-ce qui est du complotisme, qu'est-ce qui est la vérité. Donc le film m'intéressait, je le trouve très dans l'actualité pour cette raison-là. Et puis tous les fantasmes qu'on peut avoir tous autour des boîtes noires, des avions, et découvrir enfin qu'est-ce que c'est que cette réalité-là, où est-ce qu'elle est la boîte noire, comment ça marche, et comment on peut essayer de décrypter ce qui s'est passé avant un crash qui a tué 350 personnes.
On apprend plein de choses dans ce film, mais toi, t'as dû apprendre aussi plein de choses en le préparant, en tout simplement t'immergeant un peu effectivement dans la peau de Mathieu.
Ouais, j'ai passé du temps au BEA, donc qui est ce bureau qui enquête sur les accidents d'avion et qui étudie ces fameuses boîtes noires pour essayer d'écouter et comprendre ce que se sont dit les pilotes avant une catastrophe aérienne, là en l'occurrence. Et on méconnaît ce bureau en France, alors que c'est un bureau très réputé dans le monde entier. On nous envoie des boîtes noires d'accidents d'avion d'autres pays parce qu'on a vraiment des très très bons enquêteurs et acousticiens. Mathieu Vasseur est donc un de ces acousticiens. Et j'ai passé du temps avec eux là-bas, au BEA, à prendre des notes, à les filmer, à voir comment ils travaillent dans ces bureaux-là, comprendre la réalité de ce métier. Voilà, comment on ouvre une boîte noire, qu'est-ce qu'on écoute, sur quel logiciel on travaille pour essayer d'entendre le plus précisément possible ce qu'a dit le pilote juste avant que l'appareil ne décroche. Voilà, c'est des choses qui sont capitales et c'est un métier très solitaire en même temps.
C'est clair. Et puis, on a l'impression que Mathieu, il y va, coûte que coûte, vraiment, c'est obsessionnel chez lui pour arriver à trouver cette quête de vérité. Et à la fois, nous, des fois, spectateurs, on doute aussi, et c'est ça qui est bien dans ce qu'a amené Yann, c'est que des fois, on doute aussi sur le personnage, et à la fois, on se dit des fois, il doit avoir raison dans la direction où il va. Enfin, vraiment, le film nous permet de faire sans arrêt des allers-retours entre cette obsession qu'a Mathieu.
Complètement, c'était vraiment le but, c'est de faire un film assez paranoïaque pour que les gens hésitent, doutent, ne sachent plus à qui se fier, parce que Mathieu Vasseur ne détient pas nécessairement la vérité, hein. Donc le doute est total et la suspicion va même aller jusqu'au sein de son couple et la paranoïa jusqu'au sein de sa vie très privée.
Bon, est-ce que l'eau était froide?
L'eau était particulièrement froide parce qu'il y a des séquences effectivement dans un lac et enfin un étang. On était à Rambouillet en mois de novembre, donc je vous avoue qu'on a bien caillé. Et par on, je veux dire je, puisque les autres avaient des combinaisons étanches et que moi j'étais évidemment en costume, donc juste en t-shirt et en pantalon. Donc on a bien caillé, mais ça sert la séquence et l'intensité, le côté immersif de cette scène d'action.
Alors vous allez sursauter aussi à un moment donné, moi je ne vous dis que ça, mais vous allez avoir une surprise à un moment donné au milieu du film, vous allez faire un énorme sursaut sur votre chaise en voyant le film. On vous en dit pas plus, mais toi ça a dû te faire bizarre aussi avec plusieurs prises, t'as sursauté à chaque fois mine de rien sur cette scène.
Ouais, Yann aime bien mettre un peu les nerfs des spectateurs à l'épreuve et je trouve qu'il est très fort, il est très fort dans sa réalisation, il est entre Hitchcock, Polanski, il vise ça et je trouve que c'est un vrai film français qui a rien à envier aux Américains, qui pourtant déploie des séquences très intimes et aussi des séquences très impressionnantes en réalisation, je trouve, et ambitieuses, ça c'est génial.
Moi ce qui m'a vraiment étonné c'est le rythme. Le rythme, il est soutenu de début à la fin. Quand on a un film de plus de 2 heures comme ça, on peut se dire des fois, il y a souvent des longueurs, des choses. Et là, rien, mais vraiment du début à la fin, on est scotché. Est-ce que toi, c'est aussi ce que t'as ressenti, non seulement en le tournant et en le voyant la première fois monter finalement?
Surtout en le voyant, ouais. Je trouve ça haletant et je trouve ça monter avec effectivement l'intelligence de savoir couper toujours au bon endroit pour qu'on reste très très actif quand on est spectateur de ce film là, il y a beaucoup de mystères à résoudre et il faut être attentif aux détails dans le film et je pense que le spectateur le sent ou le pressent que dans des détails se cache la vérité.
Quel est ton meilleur souvenir de tournage? Est-ce que t'as justement, qu'est-ce que tu retiendras principalement de ce tournage qui a dû être un moment éprouvant parce que t'es de tous les plans, de toutes les scènes?
C'était un film éprouvant, c'était un film j'ai sous-estimé même je pense le niveau de nervosité et de fatigue que contenait le rôle. Donc je suis sorti de là vraiment lessivé, mais des bons souvenirs il y en a énormément. Tout ce qu'on a tourné dans les hangars au Bourget avec des vrais avions qui étaient mobilisés pour nous, donc des énormes Boeing et tout, c'était super impressionnant quoi. On rentrait dedans, on jouait comme des gamins autour des avions et puis Et puis jouer avec Dussolier, les scènes avec Dussolier. J'avais très envie de jouer avec André Dussolier depuis longtemps. Et voilà, évidemment, sa voix légendaire, son charisme, c'était un bonheur.
Lou Delage aussi, qui joue ton épouse dans le film. T'es quand même très très bien entouré. Mais Boîte Noire, tu n'es pas seulement à l'affiche que de ce film. On le disait, il va y avoir Hamon, tu le disais, de Nicole Garcia, d'ici quelques semaines aussi, qui va sortir au cinéma.
Voilà, ça sera un peu plus tard, en novembre. Donc d'abord le premier cap, et puis qui est une grande fierté pour moi, c'est de présenter Boîte Noire le 8 septembre à tout le monde en salle, au cinéma. Et il y a un tel travail sur l'image et le son notamment, puisque bien sûr c'est un film aussi quand même sur un acousticien, quelqu'un qui va essayer de découvrir des mystères à travers des bandes audio. Et Yann a fait un travail incroyable sur le son, et en salle c'est dément. Donc j'ai hâte que les gens puissent découvrir ça en salle.
Exactement, allez au cinéma, c'est le message qu'on vous fait passer avec Pierre. Merci Pierre d'avoir été avec nous. Boîte Noire, c'est mercredi dans les salles, c'est le film de cette semaine, évidemment ne pas rater. Merci à toi.
Merci beaucoup.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Lundi prochain, on aura le plaisir de recevoir le groupe Léonie, qui viendra tout juste de sortir son premier album. Pour y gâter sera l'honneur aussi le film avec Gérard Jugnot et Camille Lou, et ils seront d'ailleurs tous les deux nos invités. Nous aurons le plaisir de recevoir également Guillaume de Tonquédec à la veille du lancement du Festival de la Fiction Télé, dont il sera le président du jury. Et puis nous aurons également une spéciale du film Les Amours d'Anaïs avec Anaïs de Moussier et Charline Bourgeois-Taquet qui seront nos invités. Allez, n'oubliez pas, j'ai le plaisir de vous accompagner tout au long de la semaine avec La Quotidienne, du lundi au vendredi à 10h07, 12h07 et 16h07 sur Attitude. Retrouvez également cette émission en podcast dès 20h ce soir sur notre site internet onécoutelatélé.com. Elle sera également rediffusée demain soir à 19h. Et pour rester connecté avec nous, plusieurs solutions, notre application pour iPhone et Android, Chute on écoute la télé, nos pages Facebook et Instagram bien sûr. Et je vous retrouve aussi lundi prochain dès 13h pour la grande hebdo de Chute on écoute la télé. D'ici là, passez une très belle semaine à l'écoute de nos programmes sur Attitude, et je vous dis à demain pour La Quotidienne.